10h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, le taux d'incidence au niveau national repasse sous la barre des 200. C'est une première depuis mi-février. 5005 personnes se trouvent actuellement en réanimation, selon les chiffres de Santé publique France. La décrue se poursuit donc lentement dans le pays. 844 nouvelles hospitalisations ont été recensées hier. Économie, le Carlton de Cannes vend son mobilier aux enchères. L'établissement hôtelier de la Croisette se débarrasse de ses meubles dès demain pour faire de la place en vue d'un chantier. Près de 600 lots seront mis en vente à partir de 40 euros. Les travaux seront effectués jusqu'en 2023, mais le style de l'hôtel doit être préservé. Des milliers de manifestants se sont réunis à Porto contre le sommet social de l'Union européenne. Ils dénonçaient hier le chômage, la précarité et les privatisations. Les 27 ont approuvé hier un plan d'action sur le volet social présenté par la Commission début mars. L'idée d'une convergence vers le haut des salaires minimums au sein de l'UE a notamment été évoquée. Aux États-Unis, seul un quart des nouveaux emplois promis par Joe Biden ont été créés. Le président tablait sur 1 million de jobs en avril, mais les employeurs peinent à recruter dans les secteurs peu qualifiés. Le mois dernier, le taux de chômage est même légèrement reparti à la hausse dans le pays. Selon les données publiées cette semaine, 16 millions de personnes touchaient encore une aide pour la perte d'emploi à la mi-avril. 50 personnes sont mortes dans un attentat à la bombe à Kaboul. Hier, une voiture piégée et deux autres bombes ont explosé en Afghanistan, devant une école pour filles. Si l'attentat n'a pas été revendiqué, le président du pays accuse les talibans d'en être responsables. Les négociations entre le gouvernement et les talibans ont débuté en septembre au Qatar, mais piétinent. Justice, s'il veut un procès, l'homme qui accuse Kevin Spacey d'agression sexuelle devra révéler son identité. L'acteur est accusé de faits qui remontent aux années 80. Le juge estime que l'anonymat du plaignant questionne sa crédibilité.
RVE, le point sur l'actualité locale.
Bonjour, dans l'actualité locale de ce dimanche, on vote dans plusieurs communes. On vote notamment à Chevreuse où les électeurs doivent retourner aux urnes suite à l'invalidation de l'élection municipale de l'année dernière. Et puis également à Hermeray, il y a une élection municipale partielle complémentaire en vue de pourvoir aux 5 sièges vacants au sein du conseil municipal si un deuxième tour était nécessaire. Celui-ci aurait lieu dimanche prochain, 16 mai. Allons à Rambouillet avec le service du patrimoine, ville d'art et d'histoire qui vous propose ce dimanche à 15h30 près du centre commercial de la Louvière une exposition de Playmobil. Il vous faut bien sûr réserver par mail à vah@rambouillet.fr ou au 01 75 03 44 52 01 75 03 44 52. À noter que dimanche 16 mai prochain, il y aura Place de l'Europe à Rambouillet, cette exposition des Playmobil à 15h30. Il faudra également vous inscrire, c'est obligatoire, au 01 75 03 44 52. Restons à Rambouillet avec la Bergerie nationale qui organise des chantiers participatifs et conviviaux afin de rénover l'ancien arboretum de Louis XVI. Vous pouvez vous inscrire pour y participer en allant sur le site de la Bergerie nationale. Le pôle formation de cette bergerie organise des formations en apiculture le 22 mai, découverte de l'apiculture, et puis le 29 mai, gérer son rucher et améliorer ses pratiques. Inscription obligatoire, bien sûr, au pôle formation au 01 61 08 68 72, 01 61 08 68 72, formation-continue@bergerie-nationale.fr, également par mail, donc vous l'avez compris. La météo de ce dimanche, un ciel qui sera relativement ensoleillé avec des températures qui devraient culminer aux alentours de 21 à 22 degrés. Dans la soirée, ça devrait se dégrader avec des risques d'averses orageuses et de fortes rafales de vent.
Et oui, merci Jean-Marc pour ce flash local. On vous retrouvera dès 11h pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité. Et dans quelques instants, il est temps de parler sport sur RVE avec votre émission Tribune Sport présentée par Philippe Carnus et son équipe, bien sûr, comme chaque dimanche. Et je vous rappelle, juste avant nos réseaux, avec la page Facebook Radio RVE pour rester au plus proche de l'actualité locale et le site radio-rve.com, bien sûr. Très bonne écoute et belle journée à tous.
Chaque dimanche,
10h-11h,
sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnut.
Eh ben oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 9 mai. Alors après Tribune Foot de la semaine dernière, ben ça va être un Tribune Sport malgré la météo. Hein, eh bien ça va être un Tribune Sport de neige ce matin avec notre invité Jean-Claude Jorand, président du comité départemental de ski des Yvelines, et oui ça existe, et président aussi de la section biathlon de Montesson. Jean-Claude, bonjour, on est ravi en tout cas de vous retrouver.
Bonjour Philippe, merci beaucoup de votre soutien en ce moment difficile. Merci encore.
Voilà. Alors Jean-Claude, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment vous, l'homme des Yvelines, est parvenu à se passionner pour ce sport qui est le biathlon puis le ski? Comment on arrive à concilier sa passion quand on habite la région parisienne pour le ski?
Oh ben c'est pas difficile hein. Quand on est passionné par le ski et que bien évidemment on souhaite y retourner tout quand on peut le plus souvent possible en famille ou avec les amis, eh bien ma foi ça c'est naturel hein, je dois dire. Et donc j'ai fait effectivement la connaissance de gens qui aimaient bien le ski. Et puis voilà, on a eu un club de ski dans l'entreprise et c'est parti comme ça.
D'accord.
Avec le voyage, ouais.
Oui. Donc ça veut dire que vous partiez tous les week-ends pratiquement skier dans les Alpes, dans les Pyrénées ou dans d'autres régions.
Uniquement sur la région du Jura, les Vosges pas trop souvent, mais les Pyrénées non, c'était beaucoup trop loin. Déjà avec le Jura, on partait en car et on voyageait la nuit dans le car. Voilà.
Donc là, c'est devenu
plus proche.
Ouais, voilà. Donc là, c'est devenu une véritable passion. Vous avez fait quelques compétitions inter-entreprises?
Oui. Il y avait un challenge à l'intérieur de l'entreprise, donc sur les massifs de moyenne montagne. Et donc, oui, il y avait des groupes de skieurs de fond, de ski nordique. Et là, bah, les Parisiens se permettaient même de gagner. Alors bon,
c'était comme
un
quoi
peu paradoxal. Ah, ouais.
Alors ensuite, vous arrivez donc, ça vous donne l'idée de une fois la compétition terminée, une fois ces week-ends terminés, ça vous donne peut-être l'idée de vous investir au niveau d'un club qui existe dans les Yvelines, qui a vu le jour avec Bernard Torfou.
Oui, tout à fait. Alors, ça a commencé au sein de la fédération et de la ligue régionale. Et puis après avoir quitté la ligue régionale, le comité régional, effectivement, Bernard avait dans l'idée, notamment à Montesson, qui était en difficulté, de remonter un peu le club de Montesson. Voilà. Mmh. Et c'est venu effectivement avec Bernard Torfou, puisque l'on se connaissait au comité régional Île-de-France. Oui.
Alors Jean-Claude, ben c'est très bien parce qu'on va rendre hommage à Bernard Torfou hein, qui nous a quitté il y a quelques semaines. Hein. Il est décédé fin mars à 94 ans. Grand serviteur du ski dans notre département. Hein.
Tout à fait, et même au plan national et voire international, hein, puisqu'il a eu des fonctions de juge, aussi bien en saut en biathlon, très important.
Oui. Mmh. Ouais. Donc, c'est la tradition de cette émission. On va lui dédier, hein, on va avoir une énorme pensée pour lui. Qu'est-ce qui restera de son empreinte et de sa trace?
Et il reste le ski club des Yvelines, il reste le souvenir d'amis à Viroflay, il reste encore la pérennité du club de biathlon de Montesson et puis du comité départemental. Et voilà, tout ce qu'il a fait pour le bien-être des jeunes, pour les faire rêver un peu au ski, à partir au ski, hein, parce que lui, il aimait beaucoup. Il partageait cette passion non seulement en famille, mais avec tous les amis. Voilà.
Ouais. Alors, vous lui avez rendu hommage sur le site internet hein, du club de biathlon. On a vu que c'est une vie bien remplie, hein, Bernard Torfou, hein, tant sur le plan professionnel que sur le plan associatif. Une vie particulièrement remplie.
Oui, c'est une grandeur d'âme parce que, bien évidemment, c'était un éducateur. Il était bien entouré avec son épouse qui elle-même était aussi dans le même milieu. Et à eux deux, ils ont développé toute cette particularité autour du ski. Et notamment le saut et puis l'aide aux handicapés. Enfin, ça a été un vaste programme et avec des créations de clubs, avec beaucoup d'amour pour le ski.
Oui, alors ça a été facile de monter un club de ski ou un comité dans les Yvelines, dans l'Île-de-France, parce que c'est vrai que certains ont dû ne pas le prendre au sérieux au départ.
Bah, c'est-à-dire, oui, à l'époque, le ski était beaucoup plus,
réservé à certaines régions, quoi.
Ouais. Réservé à certaines régions, mais sur Paris, il y avait beaucoup de clubs d'entreprises qui favorisaient les sorties de week-end, et donc il y avait quand même de nombreux adhérents par rapport à aujourd'hui où le ski est en perte.
Ouais. Alors Jean-Claude, donc ça, le ski club de Viroflay, sa création, elle date de quand ? C'est le premier club de l'Île-de-France ?
Non, parce que, comme je le disais, il y avait des clubs corporatifs qui existaient déjà, mais en tant que club municipal, oui, ça a été certainement dans les premières années, donc c'était dans les années 75, il me semble, 75-77, et c'est là qu'il avait pris d'ailleurs la charge auprès de la municipalité de Viroflay pour regrouper des associations sous l'Union sportive municipale de Viroflay. Et à cette occasion-là, il avait créé le club de ski de Viroflay, le ski club de Zilling d'ailleurs.
Oui. Voilà, et ça a été tout de suite un succès. Il y a eu des dirigeants, des pratiquants, des pratiquantes, et puis des dirigeants bénévoles qui tout de suite sont venus renforcer ce club.
Oui, parce qu'ils faisaient appel aux familles, et donc le ski se pratiquait en famille, et je faisais des déplacements, beaucoup de déplacements. Et d'ailleurs, lui-même avait un chalet à Arèche-Beaufort, en Savoie, à côté de la Flèque, là, oui. Et donc, des saisies, pardon. Et donc là, il arrivait à avoir beaucoup de monde et ça a été le plus grand club des Yvelines, oui.
Combien de licenciés il y a eu, Jean-Claude, dans ce club, au départ, au niveau des chiffres, j'allais dire, maximal?
Oh, je dirais pas loin, plus de 100, hein, au moins 100,
ah oui,
150.
Ah oui, quand même.
Ah oui, parce que... Il arrivait à réaliser des licences à différents endroits, hors de Viroflay d'ailleurs. Oui. Mmh.
Alors comment s'entraîner ces pratiquants ? Parce que faire du ski en Île-de-France, hein, on sait que c'est pas possible, ou alors que très très peu de jours dans une année lorsqu'il neige. Comment ça se passait ? Ils partaient le week-end s'entraîner sur les sites enneigés, tous ces pratiquants ?
Oui, voilà, c'est ça, dans des lieux, dans des gîtes appropriés par soit les communes, soit par des hôtels. Et donc le déplacement, c'était soit en car ou soit par chemin de fer. Hein. Oui. Mmh.
Et puis l'entraînement, sur d'autres sports, le restant de la semaine, quoi. Fallait quand même bien se préparer physiquement.
Voilà, c'est ça, c'était par le biais de l'athlétisme ou même lui en particulier pour le saut, il faisait appel au trampoliniste.
D'accord.
Et donc, c'est comme ça qu'est venu d'ailleurs Sébastien Foucras, et qui nous a fait un vice-champion olympique à Nagano en 98. Hein. Ça, c'était l'heure de gloire du ski club des Yvelines avec Bernard. Oui.
Oui, parce que tout le monde n'était pas spécialisé dans le ski alpin. Certains se sont orientés justement vers le ski, acrobatique. Comment ça s'est passé le fait de choisir ces spécialités ?
Ouais, c'est en fonction des adhérents, en fonction de la demande, de projet des adhérents. Et là, on va développer tout autour un encadrement, les lieux pour aller s'entraîner. Je sais que Sébastien Foucras s'entraînait sur le lac d'Evian, donc avec des water jumps pour commencer, pour faire les figures, qui reproduisaient ensuite sur la neige. Soit à la plagne, soit dans des stations après en hiver. Et l'été, ils s'entraînaient sur les water jumps. Oui. Je crois qu'il y en a eu un, 51 en Yvelines, à un moment donné. Mais ça n'a pas duré très longtemps. mais il allait surtout en Suisse et oui, sur la Clément.
Ouais. Alors, ça veut dire quand même que ça nécessitait un peu d'argent, parce qu'il fallait se déplacer régulièrement chaque week-end. C'était peut-être pas donné à tout le monde et à toutes les familles. C'est ça le problème, Jean-Claude.
Ah oui, oui, ça c'est sûr que l'aide financière, ben, le club, Bernard, a arrivé à trouver des subventions et à trouver auprès du département ou de la municipalité des moyens, justement, pour organiser ces déplacements à moindre frais pour les familles, parce que effectivement, entre le matériel, l'hébergement et les transports, c'est un budget qui est énorme, énorme.
Oui, et puis ça, c'était 4-5 mois d'année, hein, donc c'était pratiquement la moitié du temps, quoi.
Oui, à l'époque, c'est vrai, l'enneigement était beaucoup plus long qu'aujourd'hui. Et effectivement, ça partait du mois de décembre jusqu'à fin mars, début avril, jusqu'aux vacances.
Ouais, ouais. Est-ce que les résultats ont été bons tout de suite au niveau du ski alpin? Ou est-ce que le ski club de Viroflay a surtout eu des résultats à travers le ski acrobatique, comme on en parlait avec Sébastien Foucras?
Oui, effectivement, ça a été plutôt le saut et où il y avait des représentants d'ailleurs en équipe de France. Et puis ensuite, avec les handicaps, il a eu énormément aussi de succès avec le nordique en particulier.
Ah, d'accord.
À des championnats du monde, peut-être pas olympique, mais championnat du monde et Europe, oui. Donc, ils ont fait ces circuits-là et ils se sont distingués avec... il y avait Stéphane Sass, oui. Il y avait de brillants compétiteurs chez lui. C'était un club de haut niveau, hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est remarquable, c'est d'avoir pu faire un club de haut niveau avec quand même une centaine de licenciés en Ile-de-France, quoi. Ça paraissait un défi complètement incroyable.
Oui, c'est ça qui fait le côté atypique de la chose, parce que évidemment, il s'arrangeait à trouver des moyens et il obtenait des moyens par ses relations, par ses amitiés. Et puis, lui-même mettait aussi un petit peu la main à la poche.
Hein. Oui, en plus, ce qui est remarquable, hein, donc remarquable bénévole, hein, c'est quand même, il faut le dire, il faut le répéter, il y a des bénévoles, des fois, qui mettent de l'argent d'eux-mêmes. Donc, chapeau, hein, chapeau, c'est un grand monsieur.
Ah oui, oui. Ouais.
Alors, Jean-Claude, donc Sébastien Foucras, on l'a connu, hein, puisqu'il a été, effectivement, on l'a dit, médaillé olympique sur Nagano. C'est le compagnon, pour la petite histoire, de Marie-Jo Pérec. Et puis, il y a eu aussi quelqu'un qu'on a bien connu, qui est venu à ce micro. C'est Émilie Cochet aussi, qui elle aussi était très bonne en ski acrobatique.
Hein. Alors, une petite anecdote à son sujet. Ben, Émilie l'avait invité à un saut ou à une escapade sous une aile volante, je crois que c'était en Ile-de-France, oui. Et il était déjà âgé, et il était heureux d'avoir fait cet exploit avec elle. Ça l'avait marqué. Oui.
Et vous parliez justement des trampolines. On se rappelle aussi d'une émission avec Émilie Cochet il y a très longtemps dans nos studios. Elle était très copine avec une championne de plongeon et toutes les deux, donc s'entraînaient à travers le trampoline.
Ah oui, c'est ça. Ah oui. Et donc après, elle reproduisait les figures sur la neige.
Ah ouais. Alors, aujourd'hui, il y a combien de licenciés au ski club de Viroflay? Parce que ça a été l'âge d'or, hein, de ce club. Aujourd'hui, c'est un club qui existe encore, dont vous assurez la présidence, Jean-Claude, non?
Non.
Non, pas du tout.
Non, au départ de Bernard, donc à Cherbourg, s'est trouvé la difficulté de trouver un repreneur.
Ah oui, et je comprends. Donc,
quelqu'un de son club a bien voulu... J'ai pu quand même retrouver quelques adhérents de son club. Et l'un s'est dévoué et a repris le club. Mais il est resté vraiment confiné sur quelques... Parce qu'il y avait 7 ou 8 entraîneurs. Mmh. Et ces entraîneurs-là ont toujours, par fidélité au club, pris leur licence dans les Yvelines. Donc, il y avait un petit noyau Et aujourd'hui, bah, il reste même pas 10 membres. Quoi.
Oh là là, oui, donc c'est un club qui aujourd'hui essaie de survivre. Alors on peut peut-être lancer un petit appel, si certains sont intéressés, pourquoi pas, des tout jeunes par la pratique du ski alpin ou des disciplines dérivées, hein, comme le ski agro ou le ski bosse. Ou le ski nordique, ils peuvent aller renforcer ce club, il n'y a pas de problème.
Oui, oui, tout à fait. C'est Arnaud Cabellan qui s'en occupe aujourd'hui. Oui. Et il est tout à fait ouvert pour développer son club. Mais c'est vrai que ça demande une énergie, une structure qu'il n'y a plus à l'heure actuelle. Quoi. Voilà. Et donc, c'est à partir du moment où il y a des adhérents que le club va repartir et se développer.
Bien sûr. Parce qu'il faut rappeler que la difficulté, c'est de pouvoir avoir la possibilité de s'entraîner, donc de partir pratiquement régulièrement tous les week-ends à la montagne. Ça, faut bien le préciser aux pratiquants. Ça, c'est la grosse difficulté.
Il faut avoir un projet sportif, mais s'il n'y a pas de projet sportif, il faut voir aussi dans quelles conditions on peut le faire à titre de loisir.
Bien sûr. Alors, Jean-Claude, je vous propose de marquer une petite page, une première arrêt, une petite pause de pub, et puis on revient pour la deuxième partie de cette émission. On y va.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez vos devis gratuits au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet, votre partenaire pour les projets neufs ou de rénovation, petits ou gros œuvres. Bâti Pro France est votre spécialiste pour la réalisation de tous vos travaux, de maçonnerie générale, pavillon individuel, toiture, fenêtre, carrelage et l'installation de votre portail. Pour des réalisations de qualité qui bénéficient de la garantie décennale et forte d'une expérience de 20 ans. Confiez-nous vos projets en toute sérénité. Vous avez un projet? Appelez Bâti Pro France, les compagnons maçons de Rambouillet. Devis gratuit au 01 30 88 97 54 et sur bâtipro-france.com.
Vous recherchez la brillance absolue? L'horlogerie Béchouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, vous invite à découvrir le seul diamant carré taillé comme un brillant rond parfait. Le Flanders Cut est un diamant d'exception à la brillance extrême, fait pour vos colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et parfait pour toutes les formes de sertissage. Pour le plaisir d'offrir, choisissez le Flanders Cut à la brillance extrême. Horlogerie Bijouterie Joaillerie Galloni, 19 rue du Général de Gaulle à Rambouillet. Ouvert de 10h à 19h mardi, jeudi et samedi et de 10h à 12h30 et de 14h à 19h le mercredi et vendredi.
Et maintenant, une demi-heure sans pub. Une demi-heure sans pub sur RVE.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Allez, deuxième partie de cette matinée sportive consacrée ce matin au ski et également au biathlon avec notre ami Jean-Claude Jorand. Juste un petit mot quand même pour vous rappeler les résultats du Trophée Vert. C'était la troisième réunion hippique de la saison la semaine dernière à l'hippodrome de Rambouillet avec une grosse épreuve, hein, celle du Trophée Vert. La victoire, elle est revenue au numéro 2 des 3 Ace, montée par Alexis Colette. Le deuxième, c'est le numéro 5, Caïd Doré, avec donc comme driver Bruno Marie. Le troisième, c'est le 14, Dream de la série, monté par Romain Dorieux. Le quatrième, c'est le 18, Express Jet, Franck Ouvrier comme driver. Et puis, cinquième, donc, le 9, Belphégor de Patch, par Hugues Lecoq, qui a eu 17 partants, 9 arrivés. Donc, c'était le 2, le 5, le 14, le 18 et le 9. Vous aimez les courses de chevaux, Jean-Claude?
Ah oui, ouais. J'avais été cet été justement avec mes petits enfants à l'hippodrome de, oui, c'était à côté de Granville, et donc c'était une course régionale, et oui, ça nous avait bien amusé, surtout que les petits enfants avaient fait des paris et avaient gagné.
Ah ben voilà, donc oui,
ils avaient gagné leur sucette, donc c'était très bien.
Bon ben c'est bien. Ben vous voyez, donc il y a un hippodrome important sur Rambouillet. Faudra que vous emmeniez vos petits enfants dans les prochaines semaines.
Oui.
Quand ça va rouvrir, naturellement.
Bon, voilà. Une nouvelle.
Alors Jean-Claude, vous êtes spécialisé dans le biathlon. Comment c'est arrivé après la création du club de biathlon?
Moi, c'est vrai que j'étais plutôt un nordique et pas du tout un tireur. Et quand j'ai découvert tout ça, le club a remonté avec les adhérents, a trouvé un concept, notamment avec le ski roue, pour essayer de faire une activité l'été et l'hiver. Et donc le biathlon, je m'y suis investi puis pour passer des concours d'arbitre et puis ayant la possibilité ensuite d'aller sur le circuit national pour faire l'arbitrage sur le circuit qui permettait de déceler les futurs espoirs tels qu'on les connaît aujourd'hui en équipe de France, donc Quentin Fillon-Maillet, Simon Destieux, etc. Je les ai connus lorsqu'ils étaient Benjamin.
Voilà. Bravo en tout cas. Alors la création de ce club de Montesson, c'est quelle année?
C'est donc l'origine en 1996 et moi j'ai repris en 2003.
Et tout de suite, ça a marché. Tout de suite, vous avez eu des adhérents ou des adhérentes, faut pas les oublier. Tout de suite, c'était un vif succès.
Oui, tout à fait, parce que en fait, j'ai eu la chance de faire la connaissance tout de suite d'un moniteur qui était vraiment très motivé et qui a, dans le concept que l'on voulait faire avec le ski roue, ça a marché tout de suite et les jeunes sont venus. Et puis, on avait aussi un biathlon d'été au mois de septembre qui attirait quand même plus d'une centaine de personnes. Et là, on tirait quand même quelques adhérents pour la saison à venir, l'hiver, quoi.
Oui, parce que c'est la force de votre sport quand même. Bon, vous pouvez vous entraîner en région parisienne, même sans neige, puisque il est facile de trouver des stands de tir. Et puis, le ski roue, ça remplace les entraînements pour le ski de fond. Donc, c'est plus facile que le ski alpin, quoi.
Au lieu de la glisse, on a le roulement, mais on a la coordination des gestes qui est absolument la même que sur les skis. Et le tir, bien entendu.
Bien sûr. Donc, il faut être quoi? Meilleur tireur ou meilleur fondeur ou c'est du 50-50?
C'est du 50-50, mais évidemment, quand on voit le biathlon à haut niveau, le tir est quand même prépondérant parce que tout le monde au niveau du ski est à peu près au même niveau.
Ouais. D'accord, ok. Donc c'est souvent effectivement le tir qui fait la différence dans les grandes compétitions.
Ouais. Et le mental.
Oui, bien sûr. Les résultats, ils ont tout de suite été bons sur Montesson, Jean-Claude.
Écoutez, pas en biathlon. Sincèrement, pas en biathlon, parce que le biathlon en France est d'un niveau vraiment international, on va dire, et il n'est réservé qu'en moyenne montagne pour vraiment avoir une chance d'être sélectionné après en jeune. En région parisienne, faut pas rêver. Il faut la neige. Et puis il faut un encadrement de très haut niveau que l'on n'a pas à Montesson. Donc, par contre, s'il y a des volontés qui voudraient le faire, oui, on peut les orienter sur des massifs là où ils auront la chance de s'éclore, si je puis dire. Ça nous est arrivé. J'ai eu un ou deux projets, oui.
D'accord. Donc ça veut dire que le ski roue ne remplace pas quand même l'entraînement sur la neige, hein, faut le dire quand même.
Non. Ça permet de pallier, mais de s'entraîner, certes, mais rien ne vaut la neige.
Alors, à quelle compétition vous participez au sein de vos clubs?
Donc plutôt en nordique, nous, ça va être des épreuves populaires, style longue distance, genre transjurassienne. Il y a un circuit de longue distance en France et qui ne font pas forcément partie de la World Open, mais il y a des épreuves qui existent sur les massifs en France, dans tous les Pyrénées, Savoie et autres. Et donc, ces gens-là, on organise à leur intention des déplacements où on essaie de coordonner le déplacement.
Voilà. Alors, cette année, je suppose que ça doit être compliqué, hein, parce qu'il n'était pas possible d'aller skier, il n'était pas possible de faire des compétitions. Comment vous avez géré ça au niveau de vos adhérents? Parce que le problème, c'est de rester aussi en contact avec eux et de ne pas les perdre, Jean-Claude.
Ah non, mais malheureusement, Philippe, le stand de tir étant fermé, sportif municipal, le club est fermé depuis le mois de mars 2020.
Ah oui, donc
nous n'avons eu aucune pratique jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et là, le drame, c'est que j'ai perdu 80% des effectifs.
Ah oui. Et oui,
donc,
et oui,
c'est le travail problème. Qui a été fait pendant 15 ans. A été complètement détruit dans l'espace de quelques mois. Et là, il va falloir que je reparte.
Oui, alors, en principe, ça peut repartir en septembre, ça doit repartir en septembre. Donc, c'est un appel qu'on peut faire, aller rejoindre la section biathlon de Montesson.
Hein. Oui, tout à fait, on essaiera d'être prêt le 15 octobre.
Oui.
C'est vrai qu'il va y avoir du travail entre maintenant et le mois de septembre, quoi. Donc tout l'été va être consacré aux coups de téléphone et à rechercher des bonnes volontés.
Oui. Alors, c'est combien une licence? Est-ce que vous êtes prêt à faire des facilités des réductions, des facilités de paiement pour les licences?
Une quarantaine d'euros.
Ouais.
Et puis après, étant adulte, compétiteur, là, ça va dépasser les 100 euros. Et là, en plus, il y aura l'adhésion club, il faut compter 36, 37 euros. Nous fournissons le matériel, mais le matériel personnel est quand même le plus approprié. Hein. Mais pour débuter, on fournit le matériel.
Ah d'accord, c'est-à-dire que vous fournissez les skis et la carabine. Donc c'est possible de faire cette pratique pendant un an, deux ans avec les fournisseurs du club.
Oui, si on est bien motivé, après on achète son matériel.
Oui, bien sûr. Oui. Et parmi les jeunes qui étaient dans votre section avant la pandémie, beaucoup restaient. C'était un sport qui passionnait, qui intéressait.
Oui. Donc j'avais un turnover quand même, mais en général les jeunes restaient à peu près 2 à 3 ans, certains un peu plus. C'était pas une garderie, hein. Mais il y avait quand même une passion de faire du sport, et le tir notamment était le gros facteur de motivation, parce que c'est vrai que le tir. C'est attrayant, ça demande. On voit le résultat tout de suite, donc voilà, c'est attractif et ludique.
Bien sûr. Et puis
par rapport au skirou, c'est beaucoup plus physique. Et là, certains rechignent un peu parce que voilà, il y a un effort à faire.
Oui. Alors, Jean-Claude, je suppose que vous avez beaucoup d'idées déjà pour la rentrée, pour relancer votre sport, justement, vous l'avez dit, au niveau des pratiquants, au niveau donc des médias. Vous allez relancer ce sport à travers plusieurs initiatives accompagnées par le comité départemental.
Oui, on va faire en sorte de se voir que l'on existe, de ce que l'on peut proposer. Maintenant, la difficulté, comme je dis, c'est de retrouver des moniteurs compétent, parce que on reste dans le bénévolat. Voilà, ce qui nous a permis de nous en sortir financièrement sans déficit, c'est bien ce sujet-là. Et aujourd'hui, faut retrouver les bonnes volontés, et c'est pas évident. C'est pas évident parce que le ski et notre sport en particulier avec le tir en plus, il faut trouver de bons animateurs. Voilà.
Ah, oui. Et puis peut-être travailler en partenariat avec les clubs de tir, c'est possible aussi. Hein. Il y a quelques clubs spécialisés sur ce sport dans notre région, notamment sur le Perret en Yvelines. C'est peut-être une possibilité de travailler en harmonie et d'avoir des entraîneurs sur les deux sports.
Jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas produit. Enfin, il y a eu des contacts qui ont été noués avec Courbevoie, entre autres, parce qu'il voulait aussi créer du biathlon, et puis ça ne s'est pas fait. Donc c'est vraiment difficile. à trouver ce particularisme de tir biathlon. Parce que on entend par là dans des clubs de tir le tir de précision. Et c'est tout à fait différent.
Voilà, c'est tout à fait différent. Ouais. Donc c'est ça la grosse difficulté. Il y a beaucoup de clubs de biathlon dans notre région, dans notre département, mais est-ce qu'il y a d'autres clubs en Île-de-France?
C'est la bonne question, parce qu'effectivement, il n'y en a qu'un. Et oui. Je le trouve excentré, si je puis dire, sur l'Ouest. Et donc, ça, c'est là aussi la difficulté du déplacement. J'avais quand même un moniteur qui venait de Melun, donc à 100 km, et il avait le courage de venir le dimanche matin pour faire ses cours pendant 1h30, 2h. Vous voyez.
Comme quoi.
Ça vient de partout, et c'est là la difficulté de créer des clubs, parce que c'est tellement particulier.
Et pourtant, Jean-Claude, c'est un des sports qui a peut-être le moins de licenciés, mais c'est un des sports qui rapporte le plus de médailles, paradoxalement, au sport français. Donc ça peut attirer des icônes, ça, quand même.
Il y aura toujours l'a priori de la sécurité et, comme je disais, de la formation des moniteurs pour ne pas avoir de problème. Parce que manier une arme, qui reste une arme, il y a quand même des projectiles. Et puis, il y a quand même ce côté, avec l'arme qui peut inquiéter les autorités.
Oui, bien sûr.
Il y a un coût aussi, bien sûr.
C'est un sport qu'on peut commencer très jeune.
Oui, parce que...
À quel âge?
Y a tellement de choses à apprendre. Il faut construire ce sport, et ça commence à peu près à l'âge de 10-11 ans.
D'accord, 10-11 ans.
Pour être opérationnel à partir de 15-16 ans, ensuite obtenir les résultats. Mais évidemment, pour être retenu dans les pôles de sélection des équipes de France, il faut... à partir de 12-13 ans, il faut déjà des résultats sportifs et scolaires.
Oui, bien sûr.
Ça se traduit aussi par des formations dans des sports-études.
Oui, il ne faut pas l'oublier. Alors justement, vous parliez du prix de l'arme. Le budget moyen pour pratiquer ce sport, si on veut naturellement avoir son propre équipement, c'est combien ce budget moyen?
Une arme, c'est à partir de 2500 euros.
Ouf. Ah oui, d'accord, oui, effectivement.
La paire de ski en plus, l'équipement vestimentaire, les chaussures, c'est un énorme coût. Ouais.
Très bien, allez, deuxième pause, et puis on se retrouve pour conclure cette émission. Il nous reste 10 petites minutes encore, donc on se retrouve pour la dernière partie de cette émission.
Sky fall, and it crumbles. We will stand tall. Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Brifo Électricité assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site brifo-électricité.com.
Il n'y avait plus cette petite flamme entre nous. Je le trouvais vieilli, terne, ennuyeux. Bref, je pouvais plus le voir. Alors je l'ai remplacé. Et celui-là, il a vraiment tout ce qu'il faut. Brillant, classe, je ne me lasse pas de le regarder.
Plafond fissuré, vieilli, peinture écaillée. Avec Creative Design, le spécialiste du plafond tendu, changez pour un plafond séduisant. Mat, brillant ou satiné, Creative Design pose votre nouveau plafond dans la journée. Sans poussière et sans odeur.
Une œuvre d'art.
Rendez-vous sur creativedesign.fr 01 58 88 21-20.
Vous voulez vendre, acheter un bien sur Aufargis, Le Perret ou Vieille Église? Appelez Pierre Burtel, votre agent conseil en immobilier, au 06 43 27 13 08 et bénéficiez des honoraires réduits de l'agence ImmoJust. Pierre Burtel au 06 43 27 13 08.
Et maintenant, retour des hits sur RVE.
De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de 5A, les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas. La même plage et toi de dos, dans le même contre-jour, le même cadre, la même photo, et quelques gens autour, et le son de ce bourdon.
Région avec RVE.
Dernière partie de cette émission Tribune Sport, hein, consacrée ce matin au ski et puis au biathlon. Donc on a bien présenté ces sections, hein, parce que l'on pratique dans la difficulté actuellement dans nos régions. Alors malgré tout, Jean-Claude, on a eu d'excellents résultats cette année au niveau ski et puis biathlon. On a enfin un vainqueur de Coupe du Monde au classement général, c'est Alexis Peintureau. C'est le troisième Français après Jean-Claude Killy et puis Luc Calfan à avoir donc remporté le gros globe de cristal.
Oui, alors c'est vrai, Alexis Peintureau a marqué l'époque après Killy. Mais bon, c'est vrai qu'on attendait ça depuis de très longues années.
Mmh. Eh oui. Alors, c'est vrai.
Alors, c'est vrai que Peintureau, en Nordique aussi. Hein,
en Nordique oui, mais on va en parler. On va en parler. Hein. Peintureau, il tournait autour depuis un moment. On va rappeler qu'il a gagné deux fois. Alphon ouais. L'avait gagné en 97. Ça peut donner un boost, justement, à tous ces jeunes pratiquants. Comme on disait tout à l'heure, il faut des icônes. Est-ce que ça va donner l'envie à des jeunes pratiquants d'imiter tous ces champions?
Incontestablement, hein, surtout pas forcément dans nos régions, hein, mais dans les régions alpines, oui, ça c'est clair. Ça motive sur le plan économique, sur le plan, oui, c'est sûr.
Alors, on va rappeler quand même, en plus de gagner le globe de cristal, hein, Peintureau a gagné quand même 5 épreuves de Coupe du Monde cette année, Fèvre en a gagné 3, Noël 2, il y a un petit couac chez les femmes, un peu moins brillante, puisque seul Worley a gagné une épreuve. On a le sentiment que les féminines sont un peu en retrait au niveau du ski alpin actuellement.
Oui, alors là, je connais un petit peu moins bien le sujet, mais bon, bah, tout ça, c'est une question de génération et aussi d'encadrement. Hein. Donc, faut voir dans quelles conditions ils sont placés. Mais je connais moins bien le milieu alpin.
Alors justement, il y a les championnats du monde aussi, hein. Il y a eu les championnats du monde, la France a confirmé aussi ses succès de Peintureau, de Fèvre, de Noël et de Worley en Coupe du Monde, en obtenant quand même 5 médailles, 2 or, 1 argent et puis 2 bronzes, 3e nation mondiale au classement des médailles. On va rappeler que Mathieu Fèvre a été 2 fois champion du monde en parallèle et en géant, Peintureau lui décroche une médaille d'argent en combiné et une médaille de bronze en super G et Worley en parallèle. Donc ça confirme vraiment cette excellente année pour le ski alpin français. On n'oubliera pas quand même d'avoir aussi une pensée pour Lizerou et Grange qui ont définitivement mis un terme à leur carrière.
Oui. Là, il y a incontestablement un renouveau au niveau du ski français.
Ouais. Alors, le biathlon, on y arrive. Là aussi, l'après Martin Fourcade, eh bien, est plutôt bien assuré. Hein. La France qui a terminé 2e nation au championnat du monde de biathlon avec 7 médailles, 2 or, 2 argent, 3 bronzes. Derrière, la Norvège a quand même 14 médailles. Donc là aussi, il y a une relève qui est là, Jean-Claude.
Oui, alors effectivement, on pouvait dire à l'époque de Martin qu'il cachait un peu, c'était l'arbre qui cachait la forêt, mais quand même derrière, il y a une homogénéité dans l'équipe qui fait que Quentin et Emilien ont pris la relève. Clair, ouais. Et le troisième, bah, Simon Destieu, qui s'est quand même révélé. Et donc, l'on peut estimer que, à partir de l'an prochain, il y aura une équipe un peu plus performante. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs peut-être de commises dans les préparations qui ont fait que le début de saison a été bon. Ensuite, ça a été un petit peu moyen puisqu'ils se sont retrouvés au pied de podium. Mais ils ont quand même assumé certaines premières places et c'est vraiment encourageant. Mais faut dire que la Norvège est vraiment au-dessus du lot que d'autres nations sont en train de grignoter aussi les rangs. Hein. Je pense à la Suède. Je crois que les cartes vont être redistribuées là pour les prochains Jeux Olympiques.
Hein, alors justement, ce sont des biathlètes français qui ont une marge de progression pour les années qui arrivent, hein, au niveau des épreuves de Coupe du Monde. Mais il y a aussi les Jeux dans quelques mois, les Jeux d'hiver quelques mois à Pékin. Donc c'est peut-être l'occasion pour eux de déjouer tous les pronostics.
Oui, mais attention encore une fois à leur préparation et là on a quand même quelques soucis je dirais, non pas d'encadrement, mais c'est vrai qu'il y a eu des changements un peu trop souvent qui font que ça se déstabilise un peu les membres de l'équipe de France, quoi, au niveau du tir notamment. C'est un peu dommage, mais je pense que tout ça, ça va peut-être se régulariser là, avec l'expérience dans les mois à venir.
Alors, pareil pour le ski alpin, hein, on peut espérer quand même quelques bons résultats et des confirmations à travers ces Jeux de Pékin. Hein, ça peut être une moisson de médailles pour le ski français en 2022.
Oui, surtout qu'il y a de la jeunesse. Hein.
Mmh. Et puis on n'oubliera pas le ski accro aussi avec Perrine Lafond, hein, pour faire plaisir à Sébastien Foucras et puis Émilie Cochet, parce qu'elle a gagné donc le globe de cristal en bosse et elle a gagné aussi une médaille d'or au championnat du monde en bosse. Donc ça aussi toutes ces petites disciplines dérivées, le snowboard, le ski accro, le ski bosse, il y a aussi des possibilités d'avoir des bons résultats même s'il n'y a pas énormément de pratiquants en France. Hein.
Non, c'est vrai, ce sont des sports un peu confidentiels, hein, un peu comme le biathlon. Et puis bon, il faut aussi avoir les équipements. C'est encourageant parce que bon, c'est vrai, ça rapporte toujours des médailles.
Mmh. On a quand même des domaines skiables quand même assez merveilleux. Alors vous, l'homme de la neige, l'homme du ski a dû être frustré cette année par la fermeture de ces stations de sport d'hiver où c'était difficile de pratiquer toutes les disciplines.
Ah ouais, c'est indéniable, hein. La fermeture, surtout qu'elle était, c'était un peu incohérent dans le principe où c'est en plein air. Là, bon, c'est vrai qu'il y a une cohabitation un peu délicate au moment de la prise des remontantes, mais bon, tout ça, ça pouvait peut-être se gérer, hein.
Oui, surtout qu'il y a des pays limitrophes qui, elles, ont laissé leurs stations ouvertes, comme la Suisse, par exemple. Hein, Et puis, on parlait de la Norvège. Naturellement, en Norvège, le biathlon, c'est le sport numéro un, c'est le sport roi, Jean-Claude. Hein, faut pas l'oublier. Donc, ça explique aussi ses résultats.
Hein. Tout ce qui est nordique, ski nordique, ça, c'est clair. La Mecque du ski se trouve là-bas. Hein, donc, c'est pas. Oui. Le Maine Colen et autres. Hein. Bah, oui.
Alors, on parlait des Jeux d'hiver, mais auparavant, il y aura les Jeux d'été à Tokyo. Hein, vu la pandémie, effectivement, ces Jeux olympiques à Tokyo seront disputés 6 mois avant les Jeux d'hiver. Vous, l'homme du sport, l'amoureux du sport, le spécialiste des disciplines d'hiver, comment vous allez suivre ces Jeux d'été qui vont être cette année quand même disputés dans des conditions bien, bien particulières?
Je dirais que bon, on aime ou on n'aime pas les Jeux Olympiques. Hein. Bon, c'est vrai que les Jeux, c'est toujours le summum du sport. C'est-à-dire avoir une médaille olympique, c'est le rêve de tous les sportifs. Et donc, je suivrai les Jeux, mais surtout qu'ils vont être médiatisés. Ils seront bien médiatisés. L'engouement, bon, c'est vrai que dans nos générations est peut-être un peu différente. Je m'imagine pas moins jeune un engouement plus que ce que j'ai aujourd'hui. J'ai un peu plus de difficultés aujourd'hui, je sais pas. C'est vrai que les Jeux tous les 4 ans.
Oui. Ben c'est la pandémie qui peut-être qui fait ça, ou genre, parce qu'on va vivre quand même, ça va être particulier, le monde entier ne va pas venir à Tokyo, ça va être quand même un peu particulier cette année ces Jeux.
Pas sans public, c'est quand même un peu décevant. Quoi.
Alors justement, vous œuvrez aussi, hein, même si vous êtes, je l'ai dit, un homme surtout passionné par les Jeux d'hiver, vous œuvrez pour Paris 2024, ça va être une super belle reconnaissance pour notre pays, pour toutes les valeurs du sport. On va vivre un événement dont on parle très souvent sur notre antenne, qui va être vraiment exceptionnel. Hein. On a tous hâte d'y être.
Ah ben ça, c'est clair que les Jeux Olympiques, on met tout en œuvre pour les réussir et je pense que là, avec les équipes qui sont en place, bah, le succès, il y aura un succès. Hein. C'est vrai que Paris est porteur, hein, quand même.
Ouais. Alors, on parlait justement de Martin Fourcade qui pourrait rentrer justement dans le comité d'organisation de Paris 2024.
Bah, je crois qu'il y est déjà. Hein.
Oui, oui, il y est, mais peut-être en jouer un...
Il représente des athlètes, oui.
Oui, oui, oui. Jouer un rôle peut-être un peu plus important, c'est le regard des Jeux d'hiver sur les Jeux d'été. Et puis, finalement, c'est les mêmes sports, c'est les mêmes valeurs. Hein.
Oui, ce sont les mêmes valeurs, mais les endroits sont quand même très différents les uns par rapport aux autres. Quoi. Évidemment, les sites montagnes et sites urbains comme Paris ou d'autres grandes villes. Bon, c'est vrai, ça pose d'autres problèmes de sécurité ou de gestion enfin, je passe dans les détails, mais c'est beaucoup plus compliqué que dans un site montagnard.
Hein. Ouais. Oui, alors. Oui, justement, on va finir là-dessus. On se rappelle donc les Jeux d'hiver de Grenoble et puis ceux qu'on avait, nous, eu l'occasion de suivre sur Albertville en 92. Oui, c'est des souvenirs inoubliables et qui ont laissé beaucoup, beaucoup d'améliorations pour les domaines skiables en France. Hein.
Oui, pour certains, oui. Oui, 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 c'est vrai. Il y a eu l'amélioration des pistes, des remontées mécaniques, toutes les infrastructures routières, etc., d'accès. Donc oui, il y a eu un bénéfice. Un bénéfice touristique, hein, du moins pour la région. Oui, oui, ça laisse une trace.
Ouais. Très, très bien, bah, ça sera le mot de fin. Merci en tout cas, Jean-Claude Joran, d'avoir été notre invité ce matin. C'est toujours un plaisir, hein, émission qu'on pourra naturellement réécouter en podcast très rapidement dans le courant de l'après-midi. Merci à Damien. Et puis la semaine prochaine, eh bien, on parlera au sport, au féminin, puisqu'on recevra une ancienne grande championne de badminton à ce micro. Voilà, bon dimanche à toutes et à tous et rendez-vous donc dimanche
encore.
Prochain.
Salut. Merci Jean-Claude. Beaucoup.
RVE, il est 11h.
RVE, le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. Covid-19, le taux d'incidence au niveau national repasse sous la barre des 200. C'est une première depuis mi-février. 5005 personnes se trouvent actuellement en réanimation, selon les chiffres de Santé publique France. La décrue se poursuit donc lentement dans le pays. 844 nouvelles hospitalisations ont été recensées hier. Économie, le Carlton de Cannes vend son mobilier aux enchères. L'établissement hôtelier de la Croisette se débarrasse de ses meubles dès demain pour faire de la place en vue d'un chantier. Près de 600 lots seront mis en vente à partir de 40 euros. Les travaux seront effectués jusqu'en 2023, mais le style de l'hôtel doit être préservé. Des milliers de manifestants se sont réunis